Bienvenue à Mons. Tout le monde a une place. J'ai l'impression que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Pierre, on devrait faire encore des soirées. Alors, bienvenue à cette dernière soirée sur l'Apocalypse. Alors, Pierre nous a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je serais incapable quand même d'en faire un résumé. Tu m'excuses. Mais la dernière fois, il nous a parlé de ces tableaux successifs, hein, des différents fléaux, des différents sceaux, cette progression vers le millénium. Et au milieu de tout ça, aussi l'importance de tenir, de prendre conscience, aussi de discerner les temps et en même temps de prendre conscience de notre position et de notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Et aussi, au milieu de tous ces fléaux, de voir l'importance aussi, ça m'a frappé la dernière fois, l'importance de la prière. Ce Dieu qui recueille toutes nos prières dans une coupe d'or. C'est le chapitre 5 qui parle de ça. Et je trouve que c'est tellement... Ça nous encourage à persévérer dans la prière. Même les prières non exaucées, nous disait Pierre, sont recueillies dans cette coupe et sont déversés sur la terre comme une bénédiction. Et c'est bon de se souvenir de ça. On va faire comme la dernière fois, 1h15 environ d'études bibliques, et puis 15 minutes environ de questions, plutôt des questions sur le sujet de l'Apocalypse, hein, si possible. Je crois qu'il y avait Daniel qui... La dernière fois, il était question de possession, de démons, et puis il est évoqué qu'il existait des séminaires libérés et des personnes qui sont formées pour vous accompagner. Alors, je vous ai apporté, c'est sur la table là-bas, j'espère qu'il n'y a pas trop de veste dessus, des flyers ou des cartes avec l'adresse du site. Via ce site, il y a des références pour si vous souhaitez un accompagnement, parce que vous avez quelque chose qui vous tourmente, qui vous embête. Et puis, j'ai aussi mis une feuille sur laquelle vous pouvez mettre votre adresse mail si vous souhaitez des infos pour le début de l'année prochaine. Merci. Le début de l'année prochaine, il y aura probablement un libéré 1 et un libéré 2. Donc, dans le 1, nous parlons plutôt de tout ce qui concerne le corps et l'âme. Et puis, dans le 2, ce qui concerne l'esprit. En gros, c'est à peu près ça. On apprend aussi à connaître, ben justement, qu'il n'y a pas... Tout n'est pas démon, mais tout ce qui nous embête, on peut le mettre au pied de la croix de Jésus. En très résumé, c'est ça. Et si vous avez des questions, ben vous pouvez me les poser, ou à Ursula, ou à Michel. Enfin, il y a pas mal de gens formés. Ou alors, servez-vous de flyers et de cartes.
Marche plus. Ah oui, peut-être. Voilà, chers amis, je vais mieux. J'ai repris du poids, malheureusement, comme les vieux camions sommaires, c'est plutôt devant. Mais voilà, je me réjouis de partager cette dernière soirée avec vous. Parce que nous allons y arriver, à ce fleuve de vie. Nous allons arriver à cet arbre de vie. Nous sommes en route. Et j'aimerais reprendre juste un ou deux points. D'abord, certains ici se souviennent de Gabi. Vous vous souvenez de Gabi qu'on avait invité au temps. Il avait une chanson magnifique qui disait « Faut pas flipper comme ça, meilleur est à venir ». Voilà. Il ne faut pas trop flipper par rapport à, c'est vrai, des choses difficiles, on l'a vu, mais le meilleur est à venir. Et puis, on a parlé de ces tableaux. Je vois que tu as bien écouté. Magnifique. Et puis, j'ai pensé à ces tableaux avec l'image suivante. Vous voyez, le dimanche matin, on va au culte, les cloches sonnent, et puis il y a un morceau d'orgue ou de piano, et puis il y a un cantique, ensuite il y a des prières, ensuite il y a un temps de louange, et puis il y a la parole de Dieu, on chante à nouveau des cantiques, après on a la communion fraternelle, on va boire un bon café. Et ça, ça fait partie de ces tableaux dont je vous ai parlé dans l'Apocalypse. Des moments de grâce qu'il vous faut entretenir. Mais peut-être le dimanche après-midi, vous allez visiter la grand-maman dans un home qui est dans la même chambre d'une dame qui regarde la télé du matin au soir. Peut-être vous allez voir quelqu'un à l'hôpital qui est en fin de vie. Après, ça c'est triste, c'est difficile. Après, vous faites peut-être une belle promenade, vous êtes reconnaissant. Et puis, le soir, vous écoutez le 19h30, le 20h, et rien ne va plus. Et puis, finalement, comme je l'ai dit, vous prenez place sur votre fauteuil. Vous passez par la petite porte d'Apocalypse 4, verset 1, avec Jean. Et nous sommes un moment dans la présence du royaume des cieux, avec l'armée céleste et les anges qui chantent. Donc ça, c'est important. Maintenant, j'ai dit aussi, au psaume 46, versets 11 et 12, « Un jour, Dieu dira, ça suffit, stop. » Il y a un jour, parce qu'on appelle des fois ce jour, il y a tant de choses dramatiques, jour après jour, qu'on se dit, comme c'est dit dans l'Apocalypse, ceux qui souffrent, ceux qui ont subi déjà des persécutions, qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et c'est une interrogation légitime, mais un jour, Dieu dira, voilà, stop, ça sera terminé. Et puis, j'aimerais revenir sur un point de Apocalypse 6. Je ne veux pas tout reprendre en arrière, rassurez-vous, parce qu'il faut qu'on aille au bout. Mais, dans Apocalypse 6, il était question du sixième sceau. Et là, il était dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut, ça va la voix, oui. Tout le monde comprend, oui. D'accord, très bien. Donc, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues, le ciel se retira tel un livre qu'on roule. Alors, j'aimerais vous dire deux, trois choses là-dessus, parce que nous le verrons dans Apocalypse 22, il n'y a plus rien de soleil, ni de lune, et pourtant il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais je suis convaincu, et nous y reviendrons, il y aura cette lumière divine qui fera que ça ne sera que de la lumière. C'est donc pas de souci, il y aura un ciel, mais finalement, il n'y aura plus forcément d'étoiles, de soleil et de lune. Et d'ailleurs, on pourrait dire ceci dans Hébreux 1.3 et dans Colossiens 1.17, il a dit que Jésus soutient toutes choses par sa parole. Il tient toutes choses par sa parole. Et je ne sais pas si vous savez, mais Newton a trouvé la force de la gravitation. On peut la calculer au millième de millième de millionième. C'est pour ça qu'on peut envoyer des fusées et puis qu'elles ont des rendez-vous, etc. Puis que ça marche au millième de seconde près. Mais personne ne sait ce qu'est l'attraction terrestre. Vous comprenez bien ? Personne ne sait ce que c'est. Elle existe. Et elle existe même avec des planètes qui sont à des milliers d'années-lumière, elles exercent une micro-attraction sur la Terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces masses, qui peuvent être gigantesques, comme Saturne, etc., mais même si elles ne sont pas magnétiques, elles attirent quand même. Et donc, c'est le Seigneur qui tient tout cela. Et je suis convaincu que cette loi que personne ne trouve, eh bien, c'est le Seigneur qui tient sa création. Mais si un jour il ne la tient plus, c'est que les choses arriveront sur la terre, et peut-être qu'on rejoint ici 2 Pierre 3:10 quand il est dit que les éléments se dissoudront. Mais rassurez-vous, je ne suis pas d'accord avec l'idée que tout disparaîtra. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas celui qui va tout casser. Par contre, il va purifier. Si on étudie de près ce texte de 2 Pierre 3:10, il est parlé surtout de purification. Bien sûr qu'il va tout purifier et qu'il va étendre aux dimensions qui seront nécessaires. Ne vous faites aucun souci sur les dimensions. Vous aurez tous votre maison, il est dit. Et puis, il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, pas de souci. Maintenant, je reviens aussi à Apocalypse 11. Je n'ai pas développé ce texte, mais je veux le faire. Il a dit les nations, au verset 18, chapitre 11, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom. Donc vous êtes tous compris. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et j'aimerais vous dire ici un mot de ce que j'appelle l'écologie de Dieu. Parce que Dieu qui a créé, évidemment, il est fâché contre ceux qui détruisent la terre. Et il est dit en Ésaïe, nous avons des textes très précieux. Par exemple, en Ésaïe 5, il est dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Ce n'est pas interdit de construire sa maison, vous comprenez bien. Mais on sait aussi en même temps ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne. Tout le monde le dit, quand on a goudronné toute la terre, qu'on a goudronné partout, eh bien, il ne faut peut-être pas s'étonner. Donc, il y a quand même un manque de sagesse, il faut le dire, dans notre manière de construire et de tout bétonner et de tout goudronner. Donc, ce n'est pas nouveau que nous ayons ces textes. Et il est dit aussi dans Ésaïe 24, « La terre est complètement dévastée, totalement pillée. La terre est dans le deuil épuisée, le monde épuisé dépérit. La terre a été profanée par ses habitants. » Donc c'est une réalité qui est là aujourd'hui. Mais attention, autant je suis pour une saine écologie, autant parfois, j'allais dire, j'ai plus que des cheveux blancs et gris, mais est blanc. Par contre, je crois à une vraie écologie qui consiste d'abord par un retour à Dieu et à sa parole. Et je prends à témoin Deutéronome 28, combien Dieu était soucieux de la terre, des troupeaux, de la santé du peuple. Quand il est dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Je suis dans Deutéronome 28, au verset 3. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Et puis il est dit, tous les peuples de la terre verront le nom de l'Éternel qui est invoqué sur toi et ils te craindront. Et puis il est dit aussi, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Donc il y a un retour à l'Éternel, à ses commandements, à ses ordonnances. Alors je sais très bien, on me dit, oui mais Dieu, le Seigneur a tout accompli. Oui, il a tout accompli, mais attention, il est possible qu'on dise au Seigneur, écoute, accomplis tous les commandements en moi, mais celui-là, je n'ai pas envie que tu l'accomplisses. Donc ça vaut quand même la peine, de temps en temps, de reprendre les ordonnances, de reprendre les commandements de l'Éternel et se demander si on ne devrait peut-être pas modifier quelque chose dans sa vie. Mais je connais de nombreux agriculteurs chrétiens qui cherchent vraiment la face de Dieu, de vivre selon les principes et qui ont des bénédictions. Je pense aux sœurs de Darmstadt. Vous vous souvenez, certains ont connu, ces sœurs de Darmstadt étaient vraiment engagées avec le Seigneur. Elles avaient l'agriculture, bien sûr. Eh bien, tenez-vous bien, les agriculteurs qui habitaient autour de leur maison, ils ne faisaient rien tant que les sœurs ne faisaient rien. Si elles sortaient pour semer, ils allaient semer. Si elles sortaient pour faucher, ils allaient faucher. Et ça, c'est écrit. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part une belle écologie. Voilà. Maintenant, nous passons à un chapitre quand même un peu triste, qui est le chapitre 13. On l'a abordé déjà, mais il y a cette bête qui monte de la mer et c'est politique. Pas besoin de faire des dessins, la politique mondiale ne va pas très très bien. Et il est dit, le dragon, au verset 2, donna la puissance, son trône et un grand pouvoir à cette bête politique. Et rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête et se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête et se prosternèrent devant la bête. Des paroles arrogantes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et ces 42 mois, c'est donc 3 ans et demi. Ce qui est beau dans la parole, c'est que ces temps extrêmement douloureux de l'Antéchrist seront limités dans le temps. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je l'ai dit, bien sûr, hélas, aujourd'hui déjà, tant de frères et sœurs sont persécutés et vivent déjà quelque chose de cela. Mais ce n'est pas encore le règne vraiment de l'Antéchrist, où là, il persécutera, il lui fut donné au verset 7, le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et vous vous souvenez que j'ai parlé de ces tribus, de ces peuples, de ces langues, de ces nations qui sont... On l'a déjà vu avant, c'est pour ça, voyez, ces tableaux. À l'avance, le Seigneur a déjà dit, mais oui, rassurez-vous, les tribus, les peuples, les langues, les ethnies, les nations, ils seront auprès du trône de Dieu. Mais ici, bien sûr, il y a cette persécution et ça touche les habitants, au verset 8, de la terre, qui se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. On a vu la semaine passée que ceux qui avaient ce fameux signe Tav, ce signe de Dieu sur le front, il y a des fléaux qui ne les toucheront pas, et en particulier l'occultisme. Mais ici, dans ce temps de persécution de l'Antéchrist, Dieu permettra qu'il soit frappé. Et puis arrive, à partir du verset 11, la bête qui monte de la terre, qui est, elle alors, l'aspect spirituel de l'Antéchrist. Il opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, au verset 13, il séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer. Vous voyez, il lui fut toujours donné. C'est au fond le dragon qui donne sa puissance. On pourrait dire que c'est l'imitation totale de Jésus et de notre Père Céleste, parce que nous n'avons pas de puissance. On peut, exercer par la puissance et la grâce de Dieu des dons spirituels. Mais c'est sa puissance, nous n'avons pas de puissance. C'est l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre qui, avec le paralytique à la belle porte, disent « on n'a rien, on ne peut rien faire, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis, il est parlé au verset 15 de l'image de la bête. Ça fait longtemps qu'on dit que quelque part par la télévision, quelque part par les moyens modernes, il y a bien des choses qui circulent tout autour de la Terre. Ça, on est d'accord. Maintenant, si on part de l'intelligence artificielle, il y a des choses merveilleuses. Je vous l'ai dit, cette belle image vient de l'intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'il y a là un instrument de domination absolue qui sera aux mains de l'Antichrist. C'est une évidence, parce que plus personne sait où on en est. Quand vous écoutez un Luc Ferry ou d'autres, ils disent qu'il peut créer des clones, c'est eux qui parlent, et qui s'adressent à leur famille, et qui disent des choses à leur enfant, à leur épouse, mais ce n'est pas eux. Et donc, et Luc Ferry dit, c'est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que l'Antichrist, le faux prophète, vont se servir de ces moyens-là. Mais ne prenez pas peur, s'il vous plaît. Utilisez intelligemment l'intelligence artificielle. Surtout que le 20 minutes vient de déclarer que la Suisse, par les plus grandes instances internationales, est le pays le plus intelligent du monde. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et que votre QI moyen est d'au moins 90. C'est quand même formidable, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est... Voilà, il y en a qui font toutes ces études, eh bien, nous sommes très honorés, n'est-ce pas? Vous allez rentrer chez vous en roulant les mécaniques, faisant partie du pays le plus aide. J'espère qu'il n'y a pas trop d'étrangers parmi nous, et de Français, parce qu'ils ne sont pas vraiment en tête de liste, mais voilà, ils vont se rattraper, j'en suis convaincu. Mais donc, il est clair, maintenant... Ça fait longtemps qu'on a des cartes magnétiques, longtemps qu'on a des trucs comme cela qu'on utilise, alors que tout au début, il y avait aussi des chrétiens qui disaient « Ouh, attention, surtout pas, parce que c'est quelque chose de diabolique. » Je me souviens, il y a fort, fort longtemps, avec Daniel Rinaldi, nous étions allés dans un camp de la Ligue pour savoir comment on faisait un camp de ski. Et puis... Je me souviens, on était dans la région de Rougemont. Et voilà qu'à un moment donné, on avait des passes. Là, alors je mets mon passe dans la machine. Et après, il y avait un jeune ça n'a pas marché. Puis j'ai remis mon passe dans la machine. Pensez donc, un feu rouge qui tournait. Et puis un monsieur qui est venu, qui a dit « Mais vous n'avez pas le droit de mettre deux fois de suite ». Et j'ai pris conscience qu'il y avait quelque part une machine qui savait où j'étais. Mais ça remonte loin, donc ne vous faites pas d'illusions, tout le monde sait tout sur tout. Par contre, quand on en arrive à la marque sur la main droite ou sur le front, que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le chiffre de son nom, les choses seront très claires. Alors c'est là qu'il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Alors c'est pas parce que je vous ai dit que vous étiez les plus intelligents du monde qu'il faut maintenant rentrer chez vous et calculer. Parce que je peux vous le dire, il y a 60 ans que j'étudie l'Apocalypse, il y a 60 ans que je vois des gens qui calculent, qui disent cette fois c'est ça, 666, ça a été Néron, ça a été Hitler, ça a été tout le monde. Bref, mais... Par contre, il est quand même dit que c'est le chiffre de la bête. Et je suis convaincu qu'on ne risque absolument rien tant qu'on ne nous demandera pas, comme je vous ai parlé de ce cher Polycarpe, de renier Jésus et de dire « César est Seigneur ». Donc ne vous inquiétez pas, tant qu'on ne nous demandera pas de renier notre foi, ça peut déjà passer par l'interdiction de se rassembler. Ça peut passer, comme dans bien des pays, l'interdiction d'avoir la Bible. Mais ne vous inquiétez pas, quand le temps sera là, si nous étions encore là, les choses seront très claires. Parce que le Saint-Esprit est lumière. Dieu est lumière. Il n'est pas ombre et ténèbres. Donc, ne perdons pas de temps à calculer ce chiffre. Et puis, ensuite, on voit un chapitre 14 qui n'est pas tout simple parce qu'on retrouve ces fameux 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Mais on va retrouver tout cela au chapitre 19, j'en parlerai davantage parce que je ne crois pas qu'il y a là les valises, l'os de l'agneau. C'est à nouveau, je dirais, un tableau de plus. Maintenant, là, dans les versets suivants, des bibliothèques ont été écrites parce qu'il est dit que ceux qui sont là dans le royaume, ils chantent des cantiques, ils jouent de la harpe, ça c'est magnifique, mais il est dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. De grâce, ne construisons pas, je n'ai rien contre les monastères, au contraire, quand je vais dans la crypte du monastère du Grand Saint-Bernard, j'ai vécu là des moments de grâce incroyables, où il y a des milliers d'années de prières, et j'ai vécu des onctions. Vraiment, dans cette crypte, j'ai passé souvent par là en faisant de la montagne. Mais de grâce, il ne s'agit pas de relations sexuelles. Dans toute la Bible, dans Osée en particulier, il est toujours question que ceux qui trafiquent avec des idoles, c'est comparable, bien sûr, à la pornographie, c'est comparable à l'adultère. Et puis, nous avons ensuite la proclamation des jugements divins, on en a déjà beaucoup parlé. Et j'aimerais prendre le verset 13 de ce chapitre 14. Il est dit, « J'entends, dit du ciel, une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. » Vous voyez, de nouveau, constamment, il y a ces encouragements. Il y a bien sûr ces temps que nous vivons déjà, bien sûr. Je l'ai dit, les sceaux et les trompettes, nous en sommes responsables. Les coupes, c'est différent, j'y viendrai. Mais, j'ai vu trop souvent sur des faire-part de deuil, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivre. Oui, oui, mais bon, c'est un peu facile. Hein. C'est vrai pour plusieurs, mais je peux dire, ils ne savent pas trop ce qu'ils écrivent. Enfin, ils ne sont plus là pour écrire, mais sur leur faire part, ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Maintenant, il est question, au chapitre 14, depuis le verset 14, la moisson et la vendange. Et la terre fut moissonnée. Or, on sait que ça vient de l'Évangile. Les choses sont très claires. Matthieu 13, 30, il est clairement parlé de la moisson. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que les disciples disent « Oui, mais t'as vu, dans la moisson, il y a de l'ivraie, il y a du bon grain. Laisse-nous enlever l'ivraie. » Et Jésus dit « Mais non, s'il vous plaît, laissez. C'est à la fin qu'on va trier. » Et notre rôle, c'est d'annoncer et de vivre l'Évangile, d'être rempli de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, d'être des lettres écrites, de porter la bonne odeur de Jésus, comme dans 2 Corinthiens. Mais de grâce, ce n'est pas à nous d'enlever l'ivraie, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait largement se tromper. Et voilà, donc là, il est question de la moisson et de la vendange. Puis arrive au chapitre 5, les sécoupes. Puis je vis dans le ciel, un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vous ai montré que c'est biblique de penser que Dieu envoie aussi des anges pour le jugement. Il y a bien sûr des puissances démoniaques, j'en redirai encore quelques mots, mais c'est ainsi, ça ne sert à rien de contester la parole de Dieu, et je dirais dans un sens, mieux vaut que ce soit des anges qui apportent le jugement que des démons qui massacrent tout le monde et qui... Je ne sais pas si vous comprenez, mais... Voilà, je me souviens de ce fameux cosmonaute qui était venu au temple du Bab, je vais peut-être retrouver son nom, qui s'était converti sur la Lune. Et pourquoi il s'est converti sur la Lune? Parce qu'il avait triché. Un collectionneur de timbres lui avait donné un timbre à timbrer sur la Lune. Et c'était interdit de prendre 2 grammes supplémentaires par rapport à tout ce qu'il devait emporter. Et au moment où il a timbré cette lettre, il a pris conscience, il s'est dit, voilà, j'ai amené le péché sur la terre, sur la lune, pardon. Et il a regardé la terre, il a dit, Jésus est venu marcher sur la terre, et je n'en ai pas tenu compte, et moi je marche sur la lune, et j'apporte le mal. Et cet homme s'est converti à donner un merveilleux témoignage au temple du bas, mais... Un journaliste s'est cru bon de se lever et de dire « Mais monsieur, vous êtes dans l'armée américaine, n'est-ce pas? Alors comment vous pouvez concilier cela avec votre foi chrétienne ?» Et il a répondu « La guerre est hélas une chose si sérieuse que c'est mieux que des chrétiens la conduisent. » Et notre journaliste s'est rassis et il n'a rien dit. Bien sûr, c'est infiniment triste, mais quand on voit les dérives actuelles, c'est juste effrayant. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a l'annonce de ces coups, et tout de suite, il est dit de l'apôtre Jean, « Je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu et les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom. » Vous voyez, ceux qui ont résisté, qui n'ont pas voulu le chiffre de son nom symbolisé, ou 666, on l'a dit aussi, c'est vraiment l'homme, vous voyez, 7 c'est le chiffre de Dieu, et 666 c'est vraiment, vous serez comme des dieux, et on est en train d'accomplir cela. J'ai assez travaillé le nouvel âge pour savoir qu'il y a un projet pour que l'être humain devienne Dieu. Il a dit, ils sont debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Je suis convaincu qu'il y a eu ici l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas dit textuellement, mais ça veut dire que les coupes, comme je l'ai signalé, ce sont le parallélisme avec les plaies d'Égypte. Et les plaies d'Égypte n'ont pas touché le peuple de Dieu. Donc les coupes, autant les sauts, les trompettes, nous en sommes responsables. Elles ont été largement annoncées par Jésus. Or, les coupes, pour moi, ne peuvent pas juger le peuple de Dieu puisque nous sommes jugés à la croix. Il a dit, notre jugement est fait. Nous l'avons accepté. Jésus a donné sa vie pour que nous ne soyons plus en jugement. Peut-être que nos œuvres passeront encore au feu, apparemment, mais ne craignez pas, il y aura moins qui brûlera que vous imaginez. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'on croit toujours qu'on n'en a pas fait assez, on croit toujours qu'on n'est rien du tout, et puis qu'on aurait dû faire plus. Mais voilà. Or, c'est magnifique de penser qu'à l'heure où arrivent ces 7 coupes, tout de suite, Jean reçoit la vision du peuple de Dieu qui sera épargné par ces coupes. Et puis après, il a dit, voilà, j'ai entendu une voix forte au chapitre 16 qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, allez, versez sur la terre les coupes de la fureur de Dieu. Et il y a là plusieurs fléaux. Mais il a dit au verset 5, et j'entendis l'ange des eaux, parce que je vous l'ai dit, ça touche la terre, ça touche l'eau, ça touche les choses cosmiques. Il a dit, et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, toi qui es et qui étais. Vous vous souvenez qu'au début c'était toi qui es, qui étais et qui viens. Et là, il est venu. Et souvent, il a dit, tu es juste. Je suis convaincu de la justice de Dieu. Nous avons un Dieu juste. Et il a même dit que toute bouche sera fermée. Ça ne veut pas dire, Dieu ne va pas dire boucler là. Mais ça veut dire que par rapport à des questions, par rapport à des pourquoi, eh bien, le Seigneur nous répondra et on pourra dire, oui, tu es un Dieu juste. Et puis au verset 8 du chapitre 16, il est question du soleil qui brûle les hommes, brûlé par une chaleur torride. Alors, loin de moi, j'ai toujours évité de faire des parallélismes très clairs entre ces sauts, ces trompettes et ces coups, parce que j'en ai eu jusque-là de ceux qui, depuis 60 ans, pour chaque événement, disent « c'est écrit dans l'Apocalypse ». Maintenant, il est vrai que le soleil se rapproche de la terre. Ce n'est pas qu'une question de pollution. Je vous ai parlé un peu de Velikovsky. C'est évident, les manuscrits sont là, très clairs, des centaines de manuscrits, qu'il y a 2-3 000 ans, en Amérique du Sud, il voyait les anneaux de Saturne à l'œil nu. C'est attesté. Ça veut dire qu'il y a eu des bouleversements quand même cosmiques qui font que ce n'est pas impossible non plus que certains bouleversements amènent peut-être le soleil à brûler davantage les êtres humains, mais je m'arrête là, parce que je refuse de dire « c'est comme ça, ça sera comme ça ». Ce qui est dramatique au verset 8-9, ils ne se repentirent pas pour rendre gloire. Au contraire, ils blasphèment et ne se repentirent pas. Et puis alors le sixième ange qui verse la coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau entarée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, on sait que cela a eu lieu dans le passé, que ceux qui ont attaqué Babylone ont réussi à assécher le fleuve pour entrer par, au fond, la porte à l'intérieur des murailles au travers du fleuve asséché. Donc c'est une image qui est reprise, mais il est dit ceci. Je vis sortir de la gueule du dragon. On vient de voir le dragon, c'est Satan. De la gueule de la bête, qui est la bête politique, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ça, c'est quelque chose qui est à venir. Ça veut dire ce rassemblement, j'en ai déjà parlé, il est dans les questions dans Zacharie 12, n'est-ce pas, des nations qui finalement ne supporteront plus Israël, laissons de côté les questions actuelles, les questions politiques, mais je voulais montrer, Dieu a rassemblé son peuple. Et c'est le peuple de Dieu, et Jérusalem est la ville de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et c'est là que le Seigneur reviendra sur le mont des Oliviers. Et on peut comprendre, sous la puissance de la Trinité diabolique, vous voyez, l'imitation, comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une Trinité diabolique qui, elle, va rassembler les nations pour combattre. Et il est dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez, on a de nouveau ici, à l'heure de cette grande guerre terrifiante d'Armageddon, il y a juste un verset qui fait partie de tout ce que je vous ai dit dans l'Apocalypse, où il est dit, voici, je viens comme un voleur. Rassurez-vous, ces choses arrivent, mais moi, je viens aussi. Et on sait qu'à un moment donné, il viendra délivrer Israël. Mais Armageddon aura lieu. Or, Armageddon, c'est un terme hébreu. Ar veut dire le mont. Et Geddon, c'est Megiddo. Et en fait, c'est la même chose que la plaine de Jisraël. Cette plaine extraordinaire que certains ont pu visiter. D'ailleurs, Napoléon, quand il a passé par là, il a dit, alors ici, c'est le lieu idéal pour faire une guerre. Parce qu'il y a des montagnes tout autour. Donc, un bout, il y a la mer. Après, il y a la montagne. Et d'ailleurs, c'est là que le pharaon Necho a défait les armées assyriennes. Et donc, voyez encore, là où c'est terrifiant, le Seigneur dit, courage, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Et puis, il a dit, voilà, on continue, il y a tout cette septième coupe. Et puis arrive au chapitre 17, je ne veux pas y rester bien longtemps, c'est toute la chute de Babylone. Et évidemment, il a dit, au verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Alors les 10 cornes qu'on trouve dans Daniel, je ne peux pas étudier tout Daniel avec vous, mais encore une fois, il y a, je pense, 30 ans de cela, on disait que le général de Gaulle était une des 10 cornes. Voyez, mais j'ai tout entendu, tout lu, tout vu, à en être fatigué, non pas pour relativiser la parole de Dieu, mais pour prendre qu'est-ce qui nous est dit que l'on peut comprendre et qu'est-ce qui nous est dit surtout comme encouragement. Ça, pour moi, c'est majeur. Mais sachez quand même qu'à Bruxelles, il y a une statue avec une femme sur une bête. Et alors, j'ai des preuves écrites très claires que des parlementaires savent très bien que c'est la bête de l'Apocalypse. Les choses sont très claires. Vous pouvez chercher sur Internet, vous mettez la femme sur la bête à Bruxelles, vous allez voir plein d'images. Je ne vais pas plus loin, mais pour les parlementaires, en tout cas, beaucoup, c'est clair, c'est une image de ce qu'on trouve dans Apocalypse 17. Et puis, il a dit, au verset 8, « Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Vous voyez, c'est parallélisme constant entre Jésus qui était, qui est et qui vient et cette bête qui était, qui est, qui a disparu et puis qui est de nouveau là. Alors là aussi, des bibliothèques entières ont été écrites pour savoir de qui il s'agissait. Certains ont dit, par exemple, c'est la Russie qui était presque morte après la chute du mur de Berlin. Et puis là, ils se refont de santé. Mais encore une fois, il y a des choses qui peuvent nous parler, mais gardons-nous de vouloir expliquer. Simplement, on sait, moi je pense que peut-être cette bête qui monte de la mer, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'elle était morte et puis qu'elle revit. On n'est pas étonné parce que l'Antichrist veut faire tout la même chose que Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité. Et la terre entière trouve cela formidable. Ils s'étonneront à la vue de la bête qui était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Et puis les questions de ces montagnes au verset 9, mais là aussi, beaucoup ont dit, voilà, c'est sûr que c'est Rome avec ses collines, et que la grande Babylone, c'est Rome, avec le trafic d'âmes et tout. Mais vous savez, je ne suis pas sûr que Genève, ça soit beaucoup mieux. Je ne suis pas sûr que c'est un petit peu facile de dire c'est eux, n'est-ce pas? Parce qu'on sait aujourd'hui que notre monde est dans une certaine corruption, que dans notre monde, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Et je dirais, regardons devant sa porte, balayons devant sa porte plutôt que dire avec certitude, nous savons que. Voilà, c'est là. Maintenant, il est vrai que dans l'histoire de l'Église, il est vrai que Rome a persécuté beaucoup de chrétiens. Ça, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas les seuls. Vous savez, Farel, dans le canton de Vaud, dans le pays d'en haut, ils ont aussi massacré des catholiques. Il faut le savoir aussi. On n'aime pas trop ce genre d'histoire ecclésiastique, mais tout n'a pas été facile en Allemagne non plus, avec Luther. Il y a eu des choses, on peut le dire, qui n'étaient pas très catholiques, n'est-ce pas? Donc, gardons-nous de dire c'est cela. Parce que, comme je l'ai dit, je vois des fois, malheureusement, que certains passent beaucoup de temps parce qu'ils veulent savoir. Ils veulent interpréter. Ils veulent être sûrs qu'eux ont compris. Je dirais, il y a tant de choses merveilleuses à comprendre que c'est un petit peu dommage de passer trop de temps sur ce qu'on ne comprend pas encore. Il est dit quand même, à la fin de l'Apocalypse 13, qu'on comprendra mieux avec le temps. Et Daniel, il est aussi dit, tient secret ces choses, où il a parlé énormément de ces nations, énormément de choses qu'on retrouve dans l'Apocalypse. D'ailleurs, certains ont dit, on ne peut pas vraiment comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas vraiment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est comme tissé de tous ces textes. Voilà, il faut que j'avance. Alors, on laisse de côté la grande Babylone. Et puis, on arrive aux noces de l'agneau, chapitre 19. Gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. En tout cas, là, on est sûr qu'il y a eu l'enlèvement. Mais comme je vous l'ai dit, je suis persuadé que cet enlèvement a eu lieu avant les coupes. Ce qui ne veut pas dire que pendant la grande tribulation, certains ne se tourneront pas vers le Seigneur, bien sûr. Parce qu'il y a aussi un texte qui dit, mais déjà bien avant, sont vers l'autel, sous l'autel, mais il faut bien comprendre, ils ne sont quand même pas là en train d'étouffer. Mais il est dit, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Vous voyez, comme il y a toutes ces espérances qui sont là, donc on peut penser que dans ce temps des coupes, il y a à la fois ceux qui ne se repentiront pas, ceux qui diront même au rocher tombez sur nous, mais qu'il y en a qui se tourneront vers le Seigneur parce qu'ils verront que les choses s'accomplissent et qu'elles sont vraies. Et donc, il y a ces noces de l'agneau, c'est magnifique. il y aura du vin nouveau. Matthieu 26, verset 29. Je suis convaincu qu'il y aura des prairies, qu'il y aura de quoi cultiver, que le bon vin, ce ne sera pas Harry Potter qui, avec sa baguette, dira voilà, un peu de vin. Non. Je suis convaincu, je vais vous le montrer, qu'il y aura toute une vie magnifique dans le royaume des cieux. Et il est dit dans Matthieu 8, 11, qu'on sera à table avec Abraham. Alors je ne sais pas à quelle place on sera. On aura du temps certainement pour faire connaissance, mais je saisis ces paroles au pied de la lettre. Nous, alors ne me posez pas trop de questions pour savoir, on se reconnaîtra, mais est-ce qu'on reconnaîtra de l'autre? S'il vous plaît, ne me posez pas cette question. Mais on verra Abraham. Donc c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, le Seigneur Jésus. Et je suis sûr qu'on verra les uns des autres ce qui est le meilleur de vous. Et il y a beaucoup de choses merveilleuses en vous. Donc ne vous inquiétez pas. Ne prenez rien avec vous. Comme on dit un peu, puisque je vais parler de la nouvelle Jérusalem, celui qui avait quand même beaucoup de lingots d'or, et il a quand même pris une petite valise avec lui, parce qu'il y tenait beaucoup à ses lingots, et puis Saint-Pierre, c'est toutes les histoires comme ça, n'est-ce pas, lui dit, mais tu fais quoi avec tes lingots? Ben, ma foi, c'était quand même très précieux pour nous, mais ici, c'est les pavés. Ici, la Nouvelle Jérusalem, c'est des pavés. Je ne sais pas pourquoi tu as pris des pavés avec toi. Voilà. Et donc, il y a ces noces, et au verset 9, l'ange me dit, l'ange me dit à Jean, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les anges sont nos compagnons. Les anges sont là pour nous aider. Je pense bien sûr à Daniel au chapitre 10. C'est bouleversant, j'en ai déjà dit un mot. Il intercède, il demande pardon pour son peuple qui est en déportation. Et il lit les prophéties de Jérémie et il prie, il dit « Seigneur, ça ne peut pas bientôt se terminer ?» Et puis il souffre, il prie comme parfois on souffre dans l'intercession parce qu'on n'est pas exaucé à nos yeux, on voit des choses douloureuses, on lutte, on prie. Et des fois, on ne sait plus comment prier, mais on continue. Et puis voilà un ange qui arrive et qui dit, c'est bouleversant, « Dès que tu as commencé à intercéder, j'ai été envoyé. Mais j'ai été retenu. J'ai été retenu par des puissances, par des anges mauvais. » Et quand il quitte Daniel, vous pouvez tout relire ça en Daniel 10, il dit, personne ne m'aide contre l'ange de la Perse, sauf l'archange Michel. Mais ça existe aujourd'hui, chers amis, il y a des combats dans les cieux. Et quand on prie, on met en route les anges de Dieu. On ne les voit pas forcément, mais c'est une réalité. Et il y a des combats dans les cieux. On ne comprend pas tout, mais cela nous encourage. Nous ne sommes pas tout seul sur la terre. Nous ne sommes pas tout seuls avec des fois nos difficultés, avec nos interrogations, nos découragements. Non. Et alors, la venue du Christ, alors ça c'est ce que je préfère. La suite aussi. Mais, il a dit, puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Souvenez que je vous ai parlé du cheval blanc dans les premiers sauts. Mais c'est un faux cheval, c'est un faux Christ qui a la couronne Stéphanos, c'est-à-dire la victoire à Olympe. Ici, il est dit « Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Moi, ça me bouleverse beaucoup. Voyez la différence avec ce faux cheval. Il a un manteau trempé de sang. Et certains prient pour être protégés, disent des fois que le sang de Jésus vous protège. Moi, j'aime bien dire, Seigneur, on a besoin de ton manteau trempé de sang dans nos vies, d'être couvert par ce manteau trempé de sang. Et il est dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Vous allez dire peut-être que je suis un peu trop vieux, mais ça peut être. J'ai eu le témoignage très spécifique d'une dame qui était morte dans un accident et qui allait dans les cieux. Alors, des témoignages comme ceux-là, il y en a des milliers, des livres entiers. J'ai donné des conférences à l'Université populaire de Seigne-et-Légier avec Sylvie Destiola, qui, elle, en tant que docteur en biologie moléculaire, a étudié pendant 10 ans à Genève et dans différents hôpitaux et en relation avec des hôpitaux mondiaux en Inde, au Canada, partout, sur ceux qui sont morts cliniquement et qui expliquent toujours la même chose. Un tunnel, certains vont plus ou moins loin, et puis certains voient un être blanc, alors pour les uns c'est la déesse Shiva, les autres c'est Marie, les autres c'est Jésus, c'est pas très clair. Mais certains vont aux portes de l'enfer. Et j'ai dit à cette Sylvie Destiola, qui d'ailleurs s'est lancée dans l'occultisme, parce que ceux qui sont convaincus que l'au-delà existe, il y a deux solutions. Soit ils se tournent vers la parole de Dieu et vers le Seigneur, ou alors ils entrent dans l'occultisme pour être en contact avec ses divinités. Elle a ouvert un centre de noétique à Genève. Mais je lui ai dit, madame, est-ce que vous n'avez pas eu des récits de personnes qui sont allées aux portes de l'enfer? Elle m'a dit, oui, mais on n'aime pas trop en parler. Voilà. Et d'ailleurs, les spécialistes sont unanimes pour dire une chose, c'est que ceux qui ont vécu quelque chose de beau, ils s'en souviennent, et ceux qui ont vécu quelque chose de très négatif, très peu de jours après, ils ne se souviennent de rien. Et cette dame m'a dit, voyez, j'ai eu un accident, je suis mort cliniquement, je suis allé dans des paysages de rêve, avec une lumière et des couleurs, et le Seigneur m'a dit, retourne pour 14 ans sur la terre. Et elle était dans ce lit rayonnant, triste de quitter ses adolescents, son mari. Elle m'a dit, je ne peux plus attendre de retourner là où j'ai été. Alors, je vous dis ceci. Le Seigneur ne va pas revenir au 4-4. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas notre modernité. Le royaume des cieux, c'est comme on imagine les plus beaux paysages, comme on imagine des torrents qui coulent, des animaux qui courent, des arbres, le Seigneur, bien sûr, la Nouvelle Jérusalem, j'y arrive. Mais je ne serais pas étonné que le Seigneur revienne sur son cheval blanc. Il ne va pas venir au 4-4. Et d'autre part, il sera accompagné de l'armée céleste dont je vous ai parlé, avec Élisée. C'est une armée qui existe. Et j'ai fait mon travail de mémoire qui est devenu un master de 110 pages. C'était un travail fou sur l'angélologie chez Origène. Et là, je dirais, on a une vision, je dirais, de ce monde céleste qui est quand même impressionnante. Des anges, c'est une réalité. Et donc cette armée, elle existe, et dans mon travail, j'avais mis une référence qui m'a valu une volée de bois vert de la part des experts, parce que j'avais mis le livre de Billy Graham, qui a écrit tout un livre sur les anges avec des témoignages remarquables. Dans un témoignage de missionnaires qui étaient perdus quelque part, et un soir, ils ont vu des hommes avec des machettes tout autour de la maison, et ils n'ont jamais été attaqués. Et le lendemain, quelqu'un est allé vers eux en disant « Mais c'était qui cette armée autour de la maison ?» Une armée, vous voyez. Et pour répondre d'autres thèmes. Donc, je crois que cette armée va revenir, et il est dit « De sa bouche, Jésus sort une épée à deux tranchants, nous retrouvons Hébreux 4:12, pour frapper les nations. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Comme c'est beau. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et son manteau trempé de sang. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, au verset 19, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Donc il y aura une guerre qu'on appelle eschatologique, une guerre où vont se mêler des armées célestes et l'armée du Seigneur. Et je n'hésite pas à dire, et aussi des démons qui seront là. Je vous dis cela. J'étais une fois en Camargue, je descendais pour mon travail de thèse et je faisais un peu de VTT sur ces digues à la mer. Et ceux qui connaissent un peu la Camargue savent très bien qu'à l'horizon, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de grands arbres, il y a des arbustes, mais c'est littéralement tout plat. Et tout à coup, je vois un personnage tout noir de 2 mètres qui faisait des grandes enjambées et qui devait me rejoindre. Et tout à coup, plus rien. Alors je vous permets de dire que j'avais mal à la tête, que j'étais fatigué. Je n'étais pas très bien, j'ai prié, j'ai continué mon chemin. Quelques années plus tard, j'étais orateur, et mon épouse en est témoin, des camps, des aînés, des assemblées évangéliques de Suisse romande à Valous. Est-ce qu'il y en a qui ont participé là? Et j'étais poussé à rendre compte de ce témoignage. Et qui vient vers moi, qui était un homme qui n'était pas encore à la retraite, c'est Daniel Berger. Daniel Berger, qui a été, c'est un brigadier de l'armée suisse, qui a été conseiller personnel d'Uli Maurer. Il vient vers moi et me dit, voilà, je travaille souvent à Berne, je rentrais un soir à minuit, et dans un petit village dont j'oublie le nom, mais tout près de Saint-Blaise, quand on va sur Berne, je vois très bien, c'est un petit cimetière qui n'est vraiment pas grand, avec des treillis très hauts. Et il me dit, j'étais là à 30 ou 40 à l'heure, je vois un homme noir de 2 mètres qui sort du cimetière. Il a arrêté sa voiture et lui, il a pris son arme d'ordonnance. Il a fait le tour de toutes les tombes et il n'a rien vu. Ça me permet de dire que dans ces guerres eschatologiques, il y aura l'armée céleste, mais il y aura aussi des puissances démoniaques qui seront matérialisées comme les anges, j'en ai parlé, peuvent se matérialiser. Et nous voilà à 9h05, je me dépêche, au règne de Milan. Nous voilà au chapitre 20. Alors, tout a été dit et tout a été écrit sur le règne de Milan. Il y a les amillénaristes qui disent « Nous sommes déjà dedans ». Je trouve qu'il faut des grosses lunettes pour croire que nous sommes dans le règne de Milan. Une des thèses de ces théologiens, c'est de dire que nous avons la puissance au nom de Jésus pour combattre les démons. Pour moi, D'accord, c'est vrai, mais il se trouve que ce n'est pas suffisant. J'ai vraiment une autre attente du règne de Milan. Et puis, il y a les prémillénaristes, c'est ce que je crois, c'est-à-dire que Jésus vient établir son règne sur la terre avant la dernière grande bataille eschatologique et finalement la venue de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel au chapitre 22. Mais si on regarde dans 2 Thessaloniciens, comme je vous le dis, tout est écrit avant tout. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, ne vous souvenez pas, depuis le verset 5 au chapitre 2, ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant vous savez bien ce qu'il retient pour qu'il ne se révèle en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, c'est ce que nous venons de voir, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et moi, je souffre des fois de ceux qui ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité, de la parole de Dieu. Et vous voyez, les choses sont très claires, elles sont écrites. Et donc, je crois profondément à ce règne du Seigneur où il est clairement dit que Satan sera mis en prison pour 1000 ans et qu'il y aura une première résurrection de ceux qui sont morts avant ce règne de 1000 ans et qui régneront avec Jésus. Je le crois profondément, je l'attends, je m'en réjouis, que je sois vivant ou que je fasse partie de la résurrection, et vous aussi. Maintenant, il y a des textes, parce que Ésaïe a largement parlé du royaume, au point que les théologiens se disent, mais au fond, Ésaïe, dans ce qu'il dit, est-ce qu'il parle du millénium ou bien il parle déjà du royaume? Alors, moi je me régale dans Ésaïe, évidemment, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est là qu'il est dit en Ésaïe 11 que le loup sera avec l'agneau. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, il pose des problèmes. Les loups, c'est mal fait. Ils s'attaquent aux brebis. Mais le Seigneur a su les choses à l'avance. Et donc, une fois de plus, comme dans l'Apocalypse, il nous donne des bonnes nouvelles. Et dans cette bonne nouvelle, chapitre 11, vous le savez bien, il est dit, le veau, le lionceau, c'est au chapitre 11, depuis le verset 6, qu'on engraissera ensemble, un petit garçon les conduiront, la vache et l'ours auront le même pâturage, les petits une même couche, le lion, le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'abattra sur l'orgue de la vipère, etc. Ça, c'est la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ça, c'est magnifique. Et moi, je crois que c'est en tout cas pour le règne de Milan et puis le royaume des cieux, n'est-ce pas ? On ne va pas se battre là non plus. Mais il y a encore mieux. C'est qu'au chapitre 19, alors là, moi, je me régale de ces textes, parce qu'il est dit, 19, verset 23, « En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction par toute la terre que l'Éternel des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Je vous dis qu'il n'y a rien dans la Bible qui est écrit pour rien dire. Et moi, je marche sur cette route de l'espoir. Je vous ai dit, je suis en route vers l'arbre de vie, vers le torrent de Dieu, mais je marche sur cette route de l'espérance. Et j'en parle avec des musulmans. Parce que pourquoi l'Égypte, pourquoi la Syrie? Parce que l'Égypte, c'est quand même là où s'est formé le peuple de Dieu. C'est là qu'ils ont accueilli l'enfant Jésus, Marie et Joseph. Et la Syrie, c'est là qu'ils ont très bien traité le peuple qui a été déporté. Et pour moi, c'est une espérance qui se réalisera probablement dans le temps du règne de 1000 ans, je le crois. Et j'en parle avec des musulmans en leur disant, vous savez, il y aura un seul peuple à être en bénédiction par toute la terre. Et comme je vous l'ai dit, que le Seigneur me faisait vivre certaines choses qui étaient chères dans mon cœur, comme le cri du lion, il m'a mis dans la brousse, je vous l'ai raconté, où il y avait un lion à côté de ma tante toute la nuit, mais ça veut dire, je n'ai pas dormi pour entendre ce cri du lion de Juda, mais il m'a fait rouler sur la route de l'espérance. Tu t'en souviens? Et Rosemary, Corinne, la route de l'espérance, elle s'appelle comme ça, c'est la route qui longe le sud de la Mauritanie que nous avons traversée. Elle s'appelle la route de l'espoir. Et donc, on a été un jour sur la route de l'espoir. C'est un peu mal tourné là maintenant, mais il y a une route de l'espérance. Et j'aimerais vous encourager à marcher sur cette route de l'espérance. Rendez compte ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant. Mais ce que la Bible nous dit, il faut le croire. Et il y a tant de personnes là-bas qui voient l'homme en blanc. J'ai des récits très clairs, très précis de ceux qui voient l'homme en blanc et qui se tournent vers le Seigneur. Et peut-être naïvement, je crois un réveil mondial, je crois un réveil possible au Moyen-Orient, et en tout cas pendant le millénium. Allô? Allez, il me reste 3 minutes. Allez, bon, on y va. Alors, chapitre 21, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Elle descend du ciel, donc elle existe. Je vous ai parlé de la matière noire, on ne sait pas. On ne connaît pas le 95% de toute la matière de l'univers. C'est facile à comprendre. La Nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu, les armées célestes, les anges, ça fait beaucoup de monde. Maintenant, elle descend sur la terre et elle a 2220 km², c'est beaucoup. Hein. Mais c'est la ville. Elle a des portes. Donc, je sais que certains seraient peut-être contents de chanter des cantiques pendant l'éternité, mais ce n'est pas ce qui est dit. C'est que nous irons rencontrer l'Éternel, nous irons rencontrer le Seigneur qui sera sur son trône, d'où coulera ce fleuve de vie. Mais ce qui m'impressionne, et j'ai commencé par là il y a 3 semaines, en vous disant qu'en lisant l'Apocalypse dans cette nuit de la conversion, de bouleversement de ma vie, c'est qu'il est dit au chapitre 22 qu'il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu et qu'il y a des arbres qui poussent, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et nous sommes à la fin de l'Apocalypse, donc il y aura la guérison des nations. Mais encore mieux, au chapitre 21, il est dit au verset 22, « Je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, c'est évident, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. » Je vous ai parlé de cette lumière, ça sera bouleversant, il y aura de la lumière partout. Donc il y a des nouveaux cieux, puisque la Bible le dit, mais ça sera que de la lumière bouleversante, merveilleuse. Et la dame dont je vous ai parlé m'a parlé de cette lumière presque indescriptible. Mais ce qui est formidable, il est dit au verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Au verset 26, « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. « Et on gouvernera des villes, vous savez ça ?» Donc il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, très bouleversante, qui aura été purifié par le feu, peut-être par toutes ces étoiles qui seront tombées, tout cela. Je ne parle même pas des satellites d'Elon Musk, mais ça veut dire que, bien sûr, ça sera des nouveaux cieux, une nouvelle terre, qu'elle sera rénovée, transformée, tout ce que vous voulez, qu'elle sera gigantesque, qu'il y aura de la place pour tout le monde, rassurez-vous. Mais les rois de la terre, parce que les nations sont dans le cœur de Dieu depuis toujours. On connaît beaucoup ce qui est dit à Abraham au chapitre 12 de la Genèse. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est vrai, c'est une bénédiction qui nous donne du courage aussi pour prier pour les familles, pour prier pour nos voisins et pour tous. Mais Genèse 18:18, il est dit « Toutes les nations seront bénies en Abraham ». Et les nations sont dans le cœur de Dieu, naturellement, les tribus, les langues. Et que vous le vouliez ou non, il y aura des nations dans le royaume des cieux et les rois de la terre apporteront la gloire et l'honneur de leur nation. Et je terminerai en disant, quelle est la gloire et l'honneur de la Suisse? Qu'est-ce que nous apporterons au trône de l'Éternel? C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voyagé dans tant de nations, essayé d'aider dans tant de nations, en particulier bien sûr au Mali, avec leurs spécificités, avec tout cela. Et voilà, je termine en disant, il y a au verset 14 du chapitre 22, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Vous voyez, on retrouve, et puis bien sûr, c'est quand même le livre, 22, 1, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Et il est dit aussi au verset 17, « L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est Ésaïe 55, c'est Jean 4 avec la Samaritaine. Et prions pour que nos voisins se désaltèrent de cette eau qui vient du cœur de Dieu. Et il est dit pour finir, amen, viens Seigneur Jésus, c'est ce fameux Maranatha qui peut se traduire de deux manières. C'est à la fois une prière, viens Seigneur Jésus, et c'est une certitude, le Seigneur vient. Et je termine, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Voilà, nous avons encore quelques minutes pour des questions. Et juste une minute avant 9h30, on chantera une dernière fois ce beau cantique. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Voilà les amis, j'imagine qu'il y aurait de quoi avoir bien des questions. Oui.
J'ai une question par rapport à ce 666.
Oui.
Certains disent on l'aura sur le front, d'autres disent c'est une marque simplement, on ne verra pas, il n'y a que avec les autres qui verront.
Oui.
Comment toi tu vois la chose?
Ce 666, moi, je ne m'inquiète pas du tout, parce qu'il est dit que ceux qui auront l'intelligence, si on est bien placé en Suisse, n'est-ce pas, bien, on comprendra. Donc, si vous voulez, le Seigneur est lumière. Il ne trompe pas. Il est tout le temps dit qu'il est justice. Il est vérité. Et donc, il n'y a aucun souci à se faire. Il n'y aura pas de confusion possible. Pendant la COVID-19, au Malawi, un pays que je connais bien aussi, dans le sud est-ce de l'Afrique, ils ont fait des expériences pour le pass sanitaire du Covid. Ils ont mis une puce sur la main des gens. Mais ils n'ont pas été diabolisés, vous comprenez? Et dans une usine en Hollande, au lieu de taper toujours les petits chiffres pour entrer, ou bien de. Voilà, eh bien, ils ont fait des essais aussi avec une puce. C'est pas ça, 666, vous comprenez? Ça veut dire que très clairement, il y aura une confession de foi. Alors, comment ça arrivera? Je vais donner une conférence à la Côte aux Fées prochainement qui s'intitule « De la laïcité à la disparition de l'Église visible ». Je parle bien de l'Église visible. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que je remonte aux Lumières, je remonte à la Révolution française, à la loi de 1905, etc. Mais, pour moi, n'ayez aucune crainte. Par contre, restons fidèles au Seigneur, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les choses seront claires, peut-être douloureuses. Je vous ai parlé de l'évêque Polycarpe, qui, alors qu'il était déjà sur le bûcher, l'officier lui a dit, « Dis César est Seigneur et tu es libre. » Il a répondu, il y a 86 ans, que j'aime et que je sers le Seigneur. Et on a tant et tant de témoignages de ceux qui, dans la douleur, dans la souffrance, mais ne renient pas leur maître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais pour moi, n'anticipons pas tant qu'on ne sait pas. Voilà. Par contre, la puce d'Elon Musk, l'implant cérébral qui nous connecte avec l'intelligence artificielle, ça, non. Parce que ça trafique notre cerveau. Là, non. Même s'il dit que ceux qui ont de la peine à l'école, ça m'aurait rendu service à l'époque, qu'on sera connecté avec l'intelligence artificielle. Très bien. Mais ça, on ne touche pas. On ne touche pas à notre cerveau. Et ça va vite. Parce qu'il y a des politiciens en France qui veulent déjà que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Donc, les choses vont plus vite qu'on imagine. Vont plus vite qu'on imagine. Et il se pourrait que dans certaines industries, d'ici quelques années, tant les choses vont vite, qu'on impose peut-être à tel membre d'une société d'être connecté par cette puce qui fonctionne déjà, qui est en relation avec des ordinateurs, eh bien là, il faudra dire non. Je suis convaincu. Parce qu'on touche à notre cerveau, à notre... Autre question. Voilà. Vous devez être fatigué. Alors, on va chanter ce beau cantique. Il est... un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Tu te souviens d'avoir chanté? Oui. C'était dans les années du renouveau. On chantait ça avec les catholiques à la PO, à Lyon. J'allais avec mon épouse chez des sœurs catholiques à Fribourg. On vivait des temps exceptionnels. Je ne veux pas dire que c'est plus possible, mais voilà. Prions pour que les enfants de Dieu puissent se rassembler, tenir le coup dans les temps qui viennent. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu.
Victoire, m'anime de... victoire, m'anime de l'esprit.
Encore une fois.
Et on va faire un peu plus vite parce qu'on est redoublé par ce fleuve. Hein.
Il est un fleuve qu'on a du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour rempli et sa victoire.
Seigneur, viens bénir ces frères et sœurs et tu nous bénis ensemble. Fais-nous marcher sur cette route de l'espérance, cette route où nous verrons un seul peuple. Ça nous paraît fou, mais c'est vrai, entre l'Égypte, la Syrie, c'est l'Irak, l'Iran. Et Israël sera un seul peuple en bénédiction sur toute la terre, alors qu'aujourd'hui, c'est un malheur sur malheur. Mais Seigneur, nous marchons sur cette route avec toi, dans l'espérance. Et je te prie de bénir ces frères et sœurs. Tu les connais, tu sais ce qu'ils traversent, parfois des choses difficiles, mais tu les encourages. Et comme je l'ai dit, il y a des moments où nous sommes bouleversés par ta présence, par les frères et sœurs en Christ, par l'Église. D'autres moments plus difficiles, mais tu nous donnes du courage pour aller de l'avant et témoigner de la foi en Jésus. Amen.
Amen. Merci.